l'invité du service radio de la Fédération protestante de France.
Aujourd'hui, nous recevons Catherine Goliot, rédactrice en chef au Point, responsable des hors-série références. Depuis 2004, l'hebdomadaire Le Point a créé une collection de numéros hors-série, comme je viens de le dire, qui donne des clés de découverte sur des domaines aussi variés que les religions monothéistes, les livres interdits, la pensée antique, l'érotisme, l'esprit français, la pensée chinoise, etc., etc. Chaque revue, en peu de pages, une centaine, se veut une initiation large sur le sujet, tout en offrant une vue sur ses profondeurs pour donner envie d'aller plus loin, grâce à l'accès aux textes fondamentaux du domaine. Catherine Goliot, vous êtes le maître d'ouvrage de ces hors-séries, dont le dernier numéro est consacré au protestantisme. La presse protestante, je dois vous dire, a salué sa parution d'un grand coup de chapeau, je tiens à vous le dire, parce que, comme vous le savez, dans la variété, c'est pas toujours facile d'avoir une unité. Pourquoi avez-vous eu envie de présenter le protestantisme, puisqu'il y avait déjà eu des thèmes qui avaient abordé cette question, sans la traiter à fond, bien sûr?
Effectivement, nous avions déjà traité le protestantisme, mais de manière très succincte, dans un hors-série il y a déjà plusieurs années, qui s'appelait le christianisme, où là, il s'agissait plus de faire une comparaison entre les trois grands courants du christianisme. Mais le protestantisme, ou plutôt les protestantismes, représentent des textes extrêmement importants, une tradition religieuse extrêmement riche, avec des théologiens de très très haut niveau, et en fait, on aurait dû le faire avant. Et donc, mea culpa. Et peut-être que, en fait, si je n'ai pas lancé un hors-série sur les protestantismes avant, c'est peut-être pour deux raisons. La première, c'est qu'au départ, cela me semblait un peu évident. Et je me suis dit, les protestants sont des gens qui lisent, par définition, beaucoup plus que les catholiques, par exemple. C'est la tradition du livre aussi, d'une certaine manière, la Bible. Donc, ils n'ont pas besoin de moi pour connaître leur théologien. Bon, ça, c'était ma première réaction. La deuxième, c'était le protestantisme ou les protestantismes, c'est très bien, mais est-ce que ça va intéresser tous les lecteurs? Donc là, c'était une vision très marketing, très pragmatique, et est venu un moment où il nous a semblé évident, en fait, qu'il fallait même se dépêcher de travailler sur ce sujet. Pourquoi? Parce que l'évolution, le développement du monde évangéliste nous posait question. En France, on est habitué plutôt à une tradition réformée, et là, se développe depuis des années maintenant, à une vitesse grand V, dans tous les pays du monde, un courant beaucoup plus, moins intellectuel peut-être, beaucoup plus populaire, beaucoup plus mystique peut-être, entre guillemets, et qui méritait qu'on s'y intéresse. Est-ce qu'ils avaient aussi leur théologien ou pas? Quels étaient les textes qui portaient ce mouvement? Est-ce qu'ils étaient très très différents des textes réformés ou luthériens? Voilà, toutes ces questions nous ont amené, mon équipe et moi, c'est-à-dire que je suis donc le maître d'œuvre, mais je travaille quand même très régulièrement avec un certain nombre de belles plumes et de beaux esprits, dont beaucoup sont protestants d'ailleurs, et on s'est dit, il faut qu'on se lance, il est temps.
Alors il est certain qu'il y a 10 ans, vous n'auriez pas eu ce même propos d'ailleurs, parce que les évangéliques n'auraient pas été aussi répandus dans notre pays, n'auraient pas eu la place qu'ils ont aujourd'hui.
C'est vrai, ils avaient déjà, je connais bien les États-Unis, je connais bien l'Amérique latine, ils avaient déjà une place très importante, et nous ne sommes pas franco-français, c'est-à-dire que le but de ces hors-séries était de lutter contre le café du commerce. C'est-à-dire qu'au départ, nous avons lancé les hors-séries à un moment où se développait le discours sur l'islamisme, où il y avait une véritable demande de textes fondamentaux et de connaissances de l'islam. Et on s'est dit, bon, on va commencer par comparer les textes sacrés du monothéisme. Mais au départ, l'idée, c'était vraiment, écoutez, allez au texte, allez lire les textes, et puis après, vous discuterez. Parce qu'on entendait vraiment tout et n'importe quoi, même chez les journalistes.
Oui, donc, et non pas préalablement.
Parfois, surtout chez les journalistes. D'ailleurs. Et c'est comme ça, si vous voulez, que s'est développé ce produit. Et l'idée, il y a 10 ans, on aurait très bien pu travailler sur les protestantismes, parce que les évangéliques, ils ont des textes. Et là aussi, il y a beaucoup d'idées reçues sur les évangéliques.
Donc, il y a 10 ans. Même au milieu du protestantisme.
Mais voilà, donc il y a 10 ans, on aurait très bien pu faire ce travail. Donc, mea culpa, je le répète.
Justement, le titre est protestantisme au pluriel. Ça, c'est quelque chose auquel vous teniez.
Oui.
Parce que si vous aviez dit le protestantisme, la multiplicité ou la variété n'aurait pas été exprimée de la même manière.
Voilà, exactement. Donc on peut dire le protestantisme, c'est la manière courante d'exprimer les choses, mais à entrer un petit peu dans les textes, c'est vrai qu'il y a des traditions très différentes. Les Mennonites de Lancaster aux États-Unis n'ont absolument pas grand-chose à voir avec les réformés de l'oratoire à Paris. Mmh. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer qu'il y avait cette multiplicité, d'autant que cette multiplicité, à mon avis, moi qui ne suis pas protestante, vient aussi de cette volonté, de cette revendication de liberté que je trouve absolument extraordinaire dans le, et extrêmement riche dans les protestantismes, ou en tout cas au départ dans la réforme. Et je pense que dire les protestantismes, c'est aussi reconnaître que la réforme est plurielle. Et ça me paraît important.
L'art de diviser, c'est le titre que vous avez choisi pour votre introduction. Et je salue le terme d'art. Car en effet, c'est un art de se diviser tout en étant quand même dans la fraternité.
L'art de se diviser, oui, parce que aujourd'hui, les protestantismes existent avec des identités fortes et coexistent et apprennent à vivre ensemble. Je dis bien apprennent à vivre ensemble parce que en pratiquant l'art de la division, vous avez aussi, comme tout le monde, comme aussi bien les catholiques, les orthodoxes que les juifs, que les marxistes, et je peux même vous parler des hindouistes, etc., et des musulmans, vous avez aussi pratiqué l'art de la violence et le refus de l'autre. Ce qui est quand même très intéressant dans ce courant religieux, c'est qu'il y a cette capacité à se retrouver, à discuter, qui n'existe pas partout.
L'art du débat.
Voilà. Et donc, pour moi, ces divisions multiples que l'on observe depuis la réforme ont à chaque fois été aussi une réponse à un problème. Et cette réponse a eu du mal à s'imposer. On le voit, hein, aussi bien avec les anabaptistes qu'avec Williams, etc. Mais ça a toujours été à l'origine d'un mouvement fort, avec une identité forte, et pour une réponse forte. Et c'est en cela que je pense que c'est un art. Enfin, c'est aussi une richesse, voilà. Quand je dis art de se diviser, c'est que, la division, l'opposition, peut aussi être richesse à partir du moment où il y a écoute et tolérance. Et finalement, vous n'avez pas si mal réussi.
Et ce n'est pas terminé.
Ça, c'est à vous de le voir.
Catherine Goliot, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque crise qui a provoqué justement des mouvements ou des créations de nouvelles églises ou bien des prises de position, c'est à la fois l'histoire, avec un grand H qui parfois l'a provoqué, et aussi les questions sociales auxquelles le protestantisme est très attaché, quelle que soit sa mouvance, dans l'engagement qu'il peut avoir pour régler des problèmes sociaux ou accompagner des résolutions de problèmes sociaux.
Oui, bien sûr. Bah, c'est par exemple le cas de Roger Williams aux États-Unis.
C'est pas uniquement la théologie, quoi. Voilà, c'est ça.
Bien sûr, c'est les anabaptistes au départ, c'est un problème social. Et effectivement, c'est un courant religieux qui est très en prise avec la société. Et beaucoup plus, je pense, que l'Église catholique. Et je pense qu'à ce niveau-là, les catholiques auraient dû prendre exemple sur les protestants. Ceci étant, et là, Laurent Teil se le montre très bien dans un article, je trouve, très intéressant qui est dans ce hors-série. Il montre bien comment, par exemple, au XIXe siècle, au début du XXe siècle, les protestants ont joué un rôle majeur dans la modernisation de la société française, dans l'émancipation des femmes, dans la démocratisation de la vie politique. La laïcité, la République,
l'éducation,
ils ont un rôle fondamental, vraiment fondamental. Et oui, je pense que c'est une des grandes forces, en tout cas, du protestantisme français. Alors, en même temps, ce problème social, cette prise sur la société, aujourd'hui, peut poser problème dans pas mal de pays. Parce que il y a un certain nombre de sectes protestantes qui, aujourd'hui, se développent notamment dans les pays du tiers-monde, je pense qu'il ne faut pas faire l'impasse là-dessus, qui achètent les prosélytes, et qui détruisent comme ça des sociétés. Moi, je l'ai vu personnellement au Mexique. Donc, je pense que c'est un sujet de débat, un thème qui reste ouvert et sur lequel les protestants doivent continuer de travailler.
Là, c'est vraiment la question du prosélytisme qui est en
jeu. C'est la manière dont on fait du prosélytisme. C'est la manière dont on fait du prosélytisme.
Ce n'est pas exactement la même chose que l'évangélisation.
Je pense que les gens qui pratiquent ce prosélytisme-là diront qu'ils font de l'évangélisation, de même que les catholiques en Chine et jésuites avaient leur manière de faire d'évangélisation. Moi, ce que je constate, c'est qu'un certain nombre de protestants aujourd'hui encouragent certaines populations campagnardes, notamment au Mexique, à acheter des terres en échange de la conversion. Et ils détruisent complètement des sociétés indiennes. Et c'est grave, c'est très grave. Voilà. Donc, mais c'est aussi parce qu'ils sont très empris sur la société. Mais à leur décharge, je ne veux pas faire du relativisme, les islamistes font la même chose.
Alors Catherine Goliot, dans ce numéro des protestantismes, de ce point référence, il y a un article général d'André Gounel qui, lui, par rapport à la division, montre quelles sont les trois grandes thématiques qui sont propres, enfin communes à tous les protestants.
Oui, il parle notamment de la liberté.
Oui, il parle de la place de Jésus-Christ.
De la
quand même
place
dans
de
le
Jésus-Christ, ben, donc, ça me paraît assez fondamental quand même. Sinon, vous ne seriez, oui, seriez pas chrétien.
La place de l'écriture aussi, la Bible.
La place de l'écriture, oui.
Commune à tous.
Ça, je dirais que c'est... Enfin, si un protestant ne lisait pas la Bible, est-ce qu'il serait encore protestant ? Là, je vous pose la question. Objectivement. C'est-à-dire, l'écriture est fondamentale parce que la Bible est fondamentale. Je crois que ce qui fait le protestantisme,
oui, le
depuis le début,
c'est
le retour au texte. D'ailleurs, c'est pour ça que peut-être que je suis très enthousiaste sur ce sujet, parce que les textes, pour moi, c'est fondamental. Mais il n'y a pas, à mon avis, de protestantisme sans Dieu, sans Jésus, et il n'y a pas de protestantisme sans la Bible. Pour moi, c'est la base. Mais ce que montre aussi très bien Gounel, c'est cette aspiration à la liberté, l'indépendance de l'homme, c'est-à-dire que c'est l'homme face à Dieu. L'homme qui s'assume devant Dieu, qui prend ses responsabilités devant sa croyance. Et ça me paraît très très important. Parce que c'est l'homme dans toute sa dignité aussi. Et c'est la force de l'homme. Et je trouve que dans ce cadre-là, le protestantisme s'impose comme peut-être l'une des religions les plus humanistes qui soit.
Alors dans ce numéro, il y a une chose intéressante, Catherine Goliot, c'est que vous donnez en effet des textes, d'abord le texte, et il y a un commentaire de ce texte. C'est ça la base de la collection. Alors comment vous avez travaillé pour en arriver à ceci ?
Le principe, c'est donc de choisir des textes que nous estimons fondamentaux et de les commenter, de les mettre en perspective, de manière à aider un lecteur qui n'y connaît rien. Prenons un juif, un musulman, un athée, bon, il ne faut pas qu'il soit analphabète, mais quelqu'un qui n'y connaît rien doit pouvoir lire ce texte et avoir à côté des explications qui vont lui montrer pourquoi ce texte est fondamental. Alors comment j'ai travaillé ? Ben, j'ai fait appel à des talents, de vrais talents, des protestants. Je suis allée directement voir la faculté de Strasbourg, faculté de Montpellier. J'ai appelé André Gounel, j'ai appelé Eliane Cuvillier, j'ai appelé votre président, j'ai appelé donc un certain nombre de personnalités, de Mathieu Arnold, qui est un spécialiste de Luther, et beaucoup d'autres. Et je leur ai dit, voilà, à votre avis, quels sont les textes fondamentaux ? Ils n'étaient pas tous d'accord et on a essayé de monter un sommaire. Alors évidemment, c'est une anthologie réduite parce qu'il y a une trentaine de textes et donc on ne couvre pas toute la richesse de la théologie protestante, bien évidemment. Mais il s'agissait de montrer les textes les plus emblématiques, ceux qui avaient eu le plus d'influence, ceux qui permettaient de comprendre comment s'étaient construits les protestantismes, pourquoi, qu'est-ce que chacun avait apporté. Et par exemple, il y a la déclaration de Lausanne pour les évangéliques. Voilà. Mais donc, c'est un travail en commun. C'est un travail où moi, évidemment, j'ai mon avis, qui est un avis de lecteur lambda, parce que moi, je ne suis pas protestante et je ne suis pas une spécialiste de la théologie protestante, où je fais parler et travailler les spécialistes qui ont tous une obligation, c'est d'être clair, de s'exprimer clairement et de manière pédagogique pour essayer d'être compris de tous. Et ça, c'est vraiment fondamental et je pense que c'est la force de cette collection.
Et c'est très réussi de ce point de vue-là. Vraiment, il n'y a rien à dire. Donc juste pour terminer, c'est le choix donc, de la chronologie qui a été choisie pour ces textes, que ce soit depuis les fondateurs jusqu'à aujourd'hui. Et donc je rappelle qu'on peut trouver ce numéro du point référence en kiosque qui s'appelle « Protestantisme au pluriel, les textes fondamentaux commentés ». Et qu'ensuite, si on ne le trouve plus en kiosque, on peut toujours se le procurer par lepoint.fr à la rubrique des hors-séries. Merci Catherine Goliot.
Merci beaucoup de m'avoir invitée.
C'était l'invité du service radio de la Fédération protestante de France, au micro de Chantal Crétaz, réalisation Michel Schaeffer.